Les répercussions immédiates des frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens, un renforcement de la stature diplomatique de Donald Trump au Moyen-Orient, c'est la question qu'on se posait. Élément de réponse avec Isaac Franco, analyste politique et chroniqueur de l'émission Chercher l'erreur sur Radio Judaïka. C'était hier entre 17 et 18 heures et donc bien avant le titre principal sur Radio Judaïka, mais je pense dans la presse mondiale, un cessez-le-feu est intervenu entre Israël et l'Iran depuis cette nuit. Voici donc Isaac Franco au micro de Lucie Gilson. C'était hier dans le journal de 18h.
Bonjour Isaac Franco.
Bonjour Lucie.
Alors, comme je l'ai dit, vous venez de terminer votre émission hebdomadaire Chercher l'erreur qui est diffusée tous les lundis sur Radio Judaïka. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va évoquer avec vous les frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens, mais sous un autre angle cette fois-ci, au-delà des conséquences régionales, évidemment. Est-ce que cela n'aurait pas l'effet de redonner une stature diplomatique à Donald Trump, qui avait tout de même été un peu mise à mal ces derniers temps, ou en tout cas qui avait été taxé de peu lisible par l'Occident?
Par l'Occident, que je vous entende bien, par l'Europe,
les pays de l'Europe, exactement.
Oui, d'accord, parce que aux États-Unis, soit vous êtes républicain et dans ce cas, vous êtes comme un seul homme derrière, pratiquement comme un seul homme derrière Donald Trump. Si vous êtes démocrate, vous êtes contre lui. Donc, je pense que sa stature, sa réélection le 5 novembre 2024 parle largement pour le crédit qu'il a récupéré comme chef d'État.
Ça c'est toujours le cas aujourd'hui, 6 mois après.
Certainement, lorsque vous regardez les sondages des instituts les plus crédibles, je pense en particulier à Rasmussen, son taux de popularité est aujourd'hui égal, sinon supérieur, à celui qu'il était lors de l'élection du 5 novembre 2024. Donc elle n'a pas faibli. Ça veut dire que ses partisans, ses électeurs sont toujours autant alignés sur sa politique, sur les grands axe de sa politique qu'il l'était au moment de l'élection. Le sujet de l'immigration, on voit sa manifestation particulièrement en Californie, à Los Angeles ou à Sacramento. Mais donc, il y a ce sujet-là où il en a fait un des axes principaux de son deuxième mandat, c'est de limiter l'immigration illégale, sinon de la réduire à zéro, pratiquement, puisque aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus aucun migrant qui passe illégalement la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Donc il y a ça, il y a l'amélioration du pouvoir d'achat, et donc il y a cette résolution ce projet de résolution qui devrait passer au Congrès pour permettre la fin de la taxation l'abandon de l'imposition aux classes les moins favorisées aux États-Unis. Et puis il y a cette crédibilité internationale qu'il avait besoin pour l'Amérique de récupérer après le désastre de la débâcle américaine en Afghanistan, rappelez-vous, en 2021. Face au danger iranien, il a montré que il fallait le prendre au sérieux, que ce qu'il disait, il le faisait, que ce qu'il faisait, il le disait. Donc, il y avait une parfaite cohérence entre ses propos et son action. Le risque, le danger pour lui, et là, sa crédibilité en aurait été affectée, c'est s'il avait continué de menacer l'Iran sans passer à l'acte. Il a donné 60 jours à l'Iran pour s'asseoir à la table des négociations. L'Iran a refusé. Et au 61e jour, il y a eu l'action israélienne à laquelle les Américains se sont joints quelques jours plus, une semaine plus tard. Et donc, il s'inscrit comme un président, et de cette façon, il envoie un message à la fois à ses alliés. L'Amérique est un allié fiable qui intervient, et lorsqu'elle dit quelque chose, lorsqu'elle menace, elle passe à l'acte, et elle envoie également un message aux ennemis de l'Amérique. Faites attention, parce que quand je menace, je le fais aussi. Donc, ça rassure les alliés de l'Amérique, et en même temps, ça installe dans les esprits des ennemis de l'Amérique qu'il faut le prendre au sérieux. Donc je pense que, pour ce qui est de la crédibilité, je pense que l'assistance prêtée par les États-Unis à Israël dans la nuit de samedi à dimanche n'a certainement pas altéré sa crédibilité.
Il a quand même joué la carte de l'indécision, hein, Donald Trump. On savait pas si vraiment il allait prendre la décision de bombarder. Il l'a joué jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment. Est-ce que cette attaque, ça marque un tournant dans la politique étrangère américaine ou finalement juste une continuité?
C'est pas une continuité, c'est même une rupture depuis la guerre d'Irak qui avait laissé des traces très profondes dans l'inconscient collectif américain. C'est plus jamais de guerre à l'étranger ou alors que la sécurité directe des citoyens américains n'est pas menacée. Ça c'est proscrit, c'est interdit de se lancer dans une guerre au-delà de nos frontières alors que la sécurité des Américains n'est pas concernée. Donc cette guerre, ça c'était désormais la doctrine qui était en place aux États-Unis pour les démocrates comme pour les républicains. Donc en la matière, ici en l'occurrence, pardon, il y a une rupture. Il y a une rupture avec cette doctrine qui date depuis 2003. La deuxième intervention des États-Unis en Irak, c'est en 2003. Donc c'est de dire, cette intervention, elle est différente en Iran. Il n'y a pas de boots on the ground, il n'y a pas de godillons, il n'y a pas de brodequins sur le sol, il n'y a pas de vie américaine qui est en danger, mais il se trouve que les intérêts des États-Unis, les intérêts supérieurs des États-Unis convergent avec les intérêts supérieurs d'Israël parce qu'il faut se débarrasser de cette menace atomique iranienne, parce qu'au-delà d'Israël, ça menace tout l'Occident. Donc je pense qu'il n'y a pas continuité, il y a au contraire rupture, et il y a réinstaller les États-Unis dans une posture où on n'hésitera pas à recourir à la force si on se mesure à des interlocuteurs ou à des antagonistes qui se fichent complètement du droit, qui se servent des négociations pour leurrer les États-Unis. Là, il a montré qu'on ne bluffe pas les États-Unis, c'est au contraire l'Amérique qui, de concert avec les Israéliens, ont dressé un rideau de fumée pour embrouiller les esprits des Iraniens. Vous dites qu'il a été indécis jusqu'au dernier moment. C'est vrai jusqu'à un certain point, mais on ne connaît pas la réalité de cette indécision, si elle était réelle ou si elle était feinte. Parce que le but des Israéliens comme des Américains, c'était de laisser penser aux Iraniens qu'il y avait des divergences profondes entre Jérusalem et Washington, qu'on était incapable d'accorder ces violons, qu'en réalité les Israéliens étaient condamnés à continuer cette aventure seuls, que les Américains ne voulaient pas s'en mêler, pas prêter leur assistance. Et donc on a mis en place cette divergence tout à fait artificielle pour installer dans les esprits iraniens l'illusion qu'ils ne risquaient pas d'être frappés par l'Amérique. Rappelez-vous, 2 jours seulement avant l'intervention américaine, il y a Trump qui déclarait « j'ai besoin de 2 semaines avant de me décider ». Bon, il avait déjà pris sa décision, puisque la décision, il l'avait prise le mercredi qui précédait. Donc, je pense au contraire que il n'y avait pas vraiment une indécision, mais il y avait le souci pour l'Amérique de n'intervenir qu'à partir du moment où les dividendes recueillis par l'intervention militaire israélienne étaient suffisants pour garantir l'Amérique que si elle intervenait, elle ne risquait rien. Et donc que l'opération militaire israélienne était suffisamment avancée, que les défenses iraniennes étaient suffisamment détruites, que le programme nucléaire était suffisamment affaibli, que le programme balistique était suffisamment détruit lui aussi, pour rentrer dans la danse. Et je pense que le président américain a été très très impressionné par la réussite de l'opération militaire israélienne, et je crois que c'est ça l'élément principal qui l'a convaincu de rentrer.
Alors Donald Trump, pour la première fois aujourd'hui, il a évoqué un possible changement de régime en Iran qui a été ensuite contredit par la Maison Blanche. Cela, ça ne faisait pas partie de sa rhétorique initiale. Est-ce que vous pensez que c'est envisageable et même souhaitable pour la stabilité régionale ?
Si, je pense... Les Américains, jusqu'à cette déclaration de Trump qui a été démentie par la Maison-Blanche, oui, pourquoi pas un changement de régime si l'Iran ne veut pas vraiment s'installer dans des négociations sérieuses, ça passe un message. Ça veut dire que ce qui était tabou, ce dont on ne parlait pas, désormais on en parle, même si on est démenti juste derrière. Mais on retient que la première menace, elle était avancée. Pour les Israéliens, c'est la même chose. C'est pas un but de guerre explicite. Mais si on veut avoir l'absolue certitude que l'Iran ne se lancera plus dans cette aventure meurtrière et génocidaire d'un programme nucléaire, d'un programme balistique, il faut se débarrasser de ce régime. C'est la seule solution qui garantira que l'Iran, ne cache pas quelque autre installation nucléaire qui n'a pas été touchée, quelques réserves d'uranium suffisamment enrichies pour, avec l'aide de ses associés, de ses alliés russes ou chinois, relancer le programme nucléaire dans 2 ans, 3 ans ou 5 ans. Donc c'est effectivement de changer de régime avec des gens qui ont un autre regard sur le monde, un autre regard de la, sur la place de l'Iran dans le monde et sur ses relations qu'ils vont entretenir avec ses voisins, singulièrement avec Israël. Israël, l'opération militaire israélienne s'inscrit sur 3 axes. C'est la destruction du programme nucléaire, c'est la destruction du programme balistique, mais c'est également la destruction de l'appareil répressif. L'appareil répressif, c'est-à-dire les Basiji, c'est-à-dire la police, c'est-à-dire le renseignement, et tous ces gens-là, eh bien, se voient frappés régulièrement par les Israéliens jusqu'au moment où la population iranienne sentira que cet appareil répressif n'est plus un véritable danger, et peut-être que cela l'invitera pour la 5e fois, ces 25 dernières années, à se rebeller contre le pouvoir en place. La stratégie adoptée par les responsables sécuritaires israéliens est la bonne. Ça n'est que par la force, par une démonstration de force sur le Hamas, qu'on contraindra le Hamas à de meilleurs sentiments.
Eh bien, merci Zach Franco pour cet éclairage. Donc, je rappelle que vous êtes analyste, chroniqueur de l'émission hebdomadaire Chercher l'erreur qui est diffusée donc tous les lundis sur Radio Judaïka. Merci beaucoup.
Merci pour votre invitation, Lucie. Au revoir.